Consacrez-vous assidûment à la prière. Par elle, veillez dans l'action de grâce. Priez également pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole et que se dise le mystère du Christ pour lequel je suis en prison. Que j'en parle clairement, comme je dois en parler. Comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Dans les deux premiers chapitres de cette lettre aux Colossiens, on a pu voir que Jésus n'est pas un atout parmi d'autres. Il est celui en qui on trouve une pleine satisfaction et qui répond aux besoins de tout être humain pleinement, de par sa nature, sa personne, son œuvre. Il satisfait pleinement. Dans le chapitre 3, on a vu que notre vie en tant que croyant, elle est liée à la sienne. Et en conséquence, on voudra vivre comme lui. L'apôtre Paul a utilisé l'image de vêtements dont on va se défaire et se revêtir, les siens, les revêtir. Dans tous les domaines de notre vie, dans nos relations, on va lui ressembler de plus en plus. Et la question de ce soir, la question à laquelle ce texte semble répondre, c'est si c'est vrai que Jésus satisfait pleinement à la vie d'un être humain, comment est-ce que les croyants vont le faire connaître à d'autres? Comment est-ce que l'Église va permettre à d'autres de le connaître? Vous avez probablement entendu parler du défi bucket, Ice Bucket et tous ceux qui sont passés par là. Au départ, c'est pas l'association américaine qui, ALS, qui lutte contre la maladie de Charcot qui a eu cette idée, mais elle a annoncé vendredi que plus de 100 millions de dollars ont été récoltés pour cette association. Donc un gros encouragement pour eux. C'est bien plus que ce qu'ils avaient récolté les autres années. Au départ, c'est deux personnes qui sont prêtes à jouer le jeu et qui, à leur tour, invitent trois personnes à choisir entre se verser un seau d'eau glacée sur la tête ou de payer 100 dollars à cette association. Ça a permis de médiatiser cette lutte contre la maladie, de la faire connaître, mais aussi de permettre à des fonds d'entrer. Si les chrétiens, on voulait faire connaître ce message de l'Évangile, où est-ce qu'on commencerait? Et c'est pourquoi on a décidé qu'à la RDS, à partir de maintenant, tous les dimanches soirs, on prend un seau d'eau glacée et on y passe tous. Non, ce ne sera pas ça. Ici, l'apôtre Paul commence toute cette idée de témoignage par la prière. Et je vous suggère le plan suivant. Priez pour que la parole puisse se dire. Agir pour que la parole puisse se dire. Priez pour que la parole puisse se dire. Regardez le verset 2. Consacrez-vous assidûment à la prière. Par elle, veillez dans l'action de grâce. Et quand on regarde ces quelques paroles, on remarque que les recommandations de Paul les sous-entendent en tout cas deux choses. On abandonne facilement dans le domaine de la prière. C'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on s'endort facilement dans le domaine de la prière. Si on essayait de réfléchir un peu à ces deux constats, on abandonne facilement dans le domaine de la prière. De manière très honnête, dans un livre sur la prière, Paul Miller fait le constat suivant, qui je pense est souvent le nôtre. Si j'obtiens une réponse à la prière, parfois je me dirais, ce serait arrivé de toute façon. D'autres fois, j'essaierai de prier, mais en me demandant si ça change quelque chose. Point commun, c'est quoi? C'est le scepticisme, et il le dit dans la suite, un peu plus loin. Il m'est plus facile de ressentir un scepticisme ou rien du tout, que de ressentir une passion profonde quand il s'agit de la prière. Est-ce qu'il n'a pas raison dans son constat? On est sceptique. Et par contraste, voici comment il décrit une vie de prière. Une vie de prière est précisément l'opposé Elle lutte avec le mal. Elle ne prend pas un non pour une réponse. Le psalmiste était dans le face-à-face avec Dieu, espérant, rêvant, demandant. La prière est bagarreuse. À l'inverse, le scepticisme critique seulement. Le constat est là. Facilement, on abandonne dans le domaine de la prière. Le deuxième constat, c'est que on s'endort facilement dans le domaine de la prière. L'image est prise, celle d'un sommeil dans lequel on entre, qui atténue nos réflexes, une sorte de léthargie dans laquelle on s'installe et on ne prie plus. C'est un peu comme les disciples dans le jardin de Gethsémané, ils l'ont bien illustré. Juste au moment de l'heure la plus sombre pour leur maître, alors qu'il les invite à prier, eux vont s'endormir, alors qu'il est sur le point de vivre ce qu'il y a de plus difficile à vivre, la plus grande injustice. Pour connaître que, pour être honnête avec eux, avec nous, la prière c'est à la fois très facile et très difficile. Très facile dans le sens qu'il s'agit de réaliser qu'on a un accès possible par Jésus et qu'on peut simplement lui parler. Mais très difficile en même temps, quand on est attentif à nos motivations, à notre expérience de la prière qui fluctue beaucoup. Et ici, l'apôtre Paul semble suggérer un antidote, la reconnaissance. Veiller dans l'action de grâce. Il y a, semble-t-il, un lien entre les deux. Ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul parle de reconnaissance dans la lettre. Il en parle à plusieurs reprises. Et en le liant ici à la prière, l'apôtre Paul, finalement, nous dit qu'il y aura une alimentation mutuelle entre la prière et la reconnaissance. Parce que si je suis reconnaissant pour les choses où Dieu a agi par le passé, je serai davantage prêt à prier pour l'avenir, confiant, comme il a agi dans le passé, qu'il peut agir dans l'avenir. D'où l'importance de la reconnaissance. Mais je prie aussi en étant conscient que je suis alimenté par la reconnaissance. Elle me fait, ou plutôt la prière alimente notre reconnaissance dans le sens où on goûte à une relation avec le Père. On réalise qu'on a une relation d'amour et justement qui pousse à la reconnaissance. Cette exhortation à la prière, elle semble difficile à entendre. Et je suis certain que chacun d'entre nous, en l'entendant, on se sent coupable. Peut-être même qu'on se dit, c'est un peu arrogant. Comme si quelqu'un venait vers vous à la fin de la rencontre et vous tapait sur l'épaule en vous disant, tu sais, tu devrais vraiment persévérer dans la prière. Tu sais, tu devrais veiller et être davantage reconnaissant dans la prière. Qu'est-ce qui vous passerait dans la tête si quelqu'un vous disait ça à la sortie de la rencontre? Ce serait de dire, mais il est arrogant, lui, ou elle. Et lui, alors? Et elle, alors? Est-ce qu'elle prie autant? Est-ce que c'est par arrogance que l'apôtre Paul dit ces choses, les écrit? Si vous deviez suggérer un domaine où l'apôtre Paul pourrait se sentir supérieur aux autres, si vous deviez choisir un domaine où vous avez l'impression que là, il est dans son domaine de prédilection, et donc il pourrait se sentir supérieur. Ça serait peut-être la puissance intellectuelle d'un théologien, après tout il a rédigé un quart du Nouveau Testament. Le courage du fonceur, l'apôtre, l'évangéliste qui a évangélisé une bonne partie du bassin méditerranéen. Et pourtant, voici ce qu'il écrit. Priez également pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole et que se dise le mystère du Christ pour lequel je suis en prison et que j'en parle clairement comme je dois en parler. Priez pour nous, autrement dit pour lui et ses collaborateurs, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, que se dise le mystère du Christ, que j'en parle clairement comme je dois en parler. C'est frappant, n'est-ce pas? Il prie, et il demande plutôt, il encourage la prière des croyants à Colosse, parce qu'il est conscient qu'il a besoin de leur prière. Soyez persévérants dans la prière, j'ai besoin de vos prières. Et pour cette demande de prière, il utilise une image qui est significative, que Dieu ouvre une porte pour la parole. Il le dit là, Il est en détention quand il écrit. Et on aurait tout à fait pu imaginer qu'il puisse demander une porte ouverte, une libération finalement, une délivrance. Ça serait légitime. Et si vous pensez qu'il était au-dessus de tout sentiment de solitude ou qu'il était en train de survoler cette détention, ben regardez la fin de la lettre. Il termine en disant « Souvenez-vous de ma détention ». Autrement dit, ce n'est pas facile et d'une certaine manière, c'est tout à fait légitime d'espérer une libération. Même s'il a dû y aspirer, ce n'est pas cette porte ouverte qu'il demande. D'ailleurs, si c'était sortir qui comptait le plus, il ne faudrait qu'une seule chose. Quoi ? Arrêter de prêcher ce message. Et il sortirait. C'est pour ça qu'il est incarcéré. Mais au contraire, il prie que Dieu ouvre une porte pour la parole. La porte ouverte qu'il demande, c'est que se dise le mystère du Christ. Pourquoi est-ce qu'il parle du mystère du Christ ? Ceux qui étaient là les autres soirs, vous vous souvenez peut-être qu'à Colosse, il y avait ce qu'on appelle les religions à mystère. Il fait allusion, l'apôtre Paul, à plusieurs endroits. Il s'agissait de cercles d'initiés dans lesquels on entrait justement par un rite d'initiation. Et pour les gens qui étaient attirés, c'était l'idée d'entrer dans une expérience plus forte, mystique, attirée aussi par un certain secret, être informé de l'intérieur. Mais le mystère ici, tel que l'apôtre Paul l'entend, est différent. Il s'agit de quelque chose qui a été promis dans les siècles passés et qui a maintenant été dévoilé par Jésus. Quelque chose qui a été bel et bien prédit, annoncé, mais dont la tournure a dépassé tout le monde ou surpris tout le monde. La mort et la résurrection de Jésus, le fait que les juifs et les non-juifs étaient concernés tous les deux. Et le mystère qui concerne Jésus maintenant, il doit l'annoncer. C'est pour ça qu'il est ministre de l'Évangile, il doit proclamer ce message qui concerne Jésus. Et certainement, il doit se souvenir de cette vocation. Un peu avant d'avoir été emmené à Rome, voici ce qu'il dit dans son témoignage en acte 26, verset 18. Il se souvient de cette parole que Jésus lui a dite. « Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Le message qu'il annonce, qu'il doit annoncer, c'est un message qui a pour but d'éclairer, d'ouvrir les yeux. Et c'est pour ça qu'il dit explicitement que j'en parle clairement comme je dois en parler. Pour l'apôtre Paul, l'idée, ce n'est pas d'avoir un vocabulaire enrichi d'en impressionner certains par son éloquence. Il veut la clarté pour les auditeurs. Il est tellement soucieux pour eux qu'ils saisissent ce message, qu'ils demandent des prières, il est conscient qu'il en dépend et qu'il est dépendant de Dieu. Réfléchissant à la manière dont le passage s'applique à nous, je dois reconnaître que moi j'ai hésité à l'appliquer à moi, en me disant, est-ce que en tant que pasteur, je devrais faire appel à vos prières, Mathieu, les autres intervenants ici à la RDS, est-ce qu'on devrait demander vos prières ? Est-ce que ça ne sonne pas un peu arrogant qu'on demande la prière pour notre préparation du message de dimanche ? Et pourtant, quand on y réfléchit, ça a tout à fait du sens. Est-ce que vous venez ici dimanche, vous vous asseyez sur le banc en vous disant « J'espère, le temps de la prédication, que ça semblera interminable. J'espère que ce sera opaque, incompréhensible, le langage surtout, les illustrations, les applications, n'en mettez pas. Le moins on comprend, le mieux on est, le plus heureux on est. » Pas du tout. Pas du tout. Si vous venez ici, c'est certainement qu'il y a une aspiration. Il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles vous venez à la RDS. Mais au moment de la prédication, j'espère et je pense que chacun d'entre nous, on espère que cette parole, elle va nous parler. On espère qu'elle va nous faire envie de vivre différemment. Qu'elle va toucher notre cœur, notre pensée, qu'elle va nous donner envie de servir le Seigneur davantage, de nous donner à lui. Vous venez pas ici pour une bonne sieste, je pense. Vous venez avec l'aspiration qu'elle vous touche. D'où la prière qui est légitime, une invitation à prier pour que l'on puisse clairement annoncer cette parole. Et ici, ensemble, qu'on puisse ensemble aspirer à la vivre, qu'il y ait une plus grande aspiration à vivre avec le zèle que nous donne cet évangile. Et de manière plus générale, comme il l'invite ici, c'est une invitation à prier pour que Dieu ouvre une porte pour la parole ici à Paris. C'est facile de s'habituer à une porte fermée. Il y a plusieurs portes dans l'église, que ce soit à la cuisine ou dans la salle du conseil, qu'on garde toujours fermées. Rarement. J'ai jamais vu ouvertes. Mais il y en a, effectivement, qui n'ont jamais été ouvertes. Une qu'on ouvre de temps à autre à la cuisine. Mais c'est facile de s'habituer à une porte fermée, de penser qu'il n'y a qu'un mur. Et de la même façon, vous avez peut-être des personnes autour de vous où vous vous dites « ça, c'est fermé de chez fermé. Il aura, elle aura jamais envie de parler de Jésus. Jamais elle aura envie de me poser une question. » Ou alors de penser que la probabilité qu'une personne vienne ici à la RDS, c'est la même que cette même personne aille sur Mars, pour marcher sur Mars. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais on peut se dire ça. La porte est fermée et c'est impensable qu'il y ait de l'intérêt pour l'évangile. Mais si on croit les Écritures, si on croit que nous-mêmes, que l'on soit à l'origine religieux ou athée, Dieu a ouvert la porte de notre cœur. C'est bien ça l'évangile. C'est lui qui nous a permis de voir et d'être attirés. Alors, c'est avec confiance que nous devrions prier pour que cette porte s'ouvre aussi pour d'autres. En parlant de la prière en faveur de ceux qui proclament cette bonne nouvelle, ceux qui annoncent cette parole, quelqu'un pourrait se dire ou se poser la question, est-ce que ça signifie que c'est simplement réservé aux apôtres, à des missionnaires, à des pasteurs, à des évangélistes? Et ce n'est pas le cas. L'apôtre Paul a bel et bien quelque chose à dire au sujet du témoignage de chaque croyant. Mais c'est intéressant de voir comment il en parle. C'est le deuxième point, agir pour que la parole puisse se dire. Il écrit « Comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Remarquez qu'il commence par décrire le comportement et ensuite les paroles. On attribue à saint François d'Assise la citation suivante. Annoncer l'évangile en tout temps, si nécessaire, utiliser des mots. Ça semble sous-entendre que les actes vont parler plus que les mots. Et parfois, les mots ne seront pas nécessaires, justement. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est juste? Sur la base de nos textes, on peut dire que le comportement, il est très important. C'est avec cela que l'apôtre Paul commence. Comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Il est soucieux d'une cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on vit. Comme si quelqu'un serait attiré par un message dont on dit qu'il est plein de grâce, mais la personne qui le vit, elle est remplie d'orgueil et d'arrogance. Ce serait vraiment attirant. Ou une personne qui dit vivre une pleine sécurité en Jésus, une paix, mais qui dans sa vie démontre qu'elle est à la recherche d'une sécurité à travers l'argent, les relations, obnubilée par cette sécurité qu'elle peut obtenir autrement. Il y a l'importance d'un comportement qui va aller de pair avec ce que l'on croit. Mais que penser de cette citation? Est-ce qu'on peut vraiment se passer des mots? Tout comme la prière, on l'a vu dans la première partie, doit déboucher sur une parole. Ici aussi, le comportement va déboucher aussi sur des paroles. L'évangile, après tout, littéralement, ça signifie bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui doit être annoncée pour être reçue, entendue, comprise. Il va falloir qu'elle soit annoncée. Il va falloir des mots. Maintenant, sur cette base-là, est-ce que ça veut dire que demain, vous vous levez en vous disant sur mon lieu de travail ou dans l'endroit où je vais avoir mes cours, il va falloir que je parle de Jésus. Il va falloir, à un moment ou à un autre, que je glisse une conversation sur Jésus. Même si c'est un message subliminal, il va falloir que je dise quelque chose. Il va falloir le placer à un endroit ou à un autre. Ou même avec les voisins. Je rentre à la maison, là, il faut que je dise à un moment ou à un autre quelque chose sur Jésus. Est-ce que c'est ça qu'on devrait avoir à l'esprit? Moi, les paroles que l'apôtre Paul a rédigées ici ont été un encouragement pour moi quand je me posais des questions sur le témoignage. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Qu'est-ce que ça sous-entend? Si l'apôtre Paul est clairement à la recherche d'une initiative, d'une porte ouverte, c'est intéressant ici de remarquer que pour les croyants, il sous-entend qu'il y aura des questions qui seront posées et que les crayons, vous êtes les crayons, les croyants auront à répondre à des questions. Et dans les deux textes du Nouveau Testament qui parlent explicitement du témoignage des croyants, les deux sous-entendent qu'il y aura des questions. 1 Pierre 3, 15 et 16 aussi. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand je me lève demain matin et que je vais au travail, quand je me rends à mes études, je veux tout simplement bien faire mon travail pour honorer Dieu, bien faire mes études pour honorer Dieu. Et si c'est vrai qu'une occasion se présente, là, une question est posée, je voudrais y répondre. Mais je ne dois pas vivre avec ce poids permanent d'une parole que je dois prononcer, à coup sûr. Ce que l'apôtre Paul dit ensuite, c'est qu'il faut bel et bien racheter le temps. Pour mieux comprendre, je préfère la traduction de la TOB, par exemple, saisissez l'occasion, mettre à profit les occasions. L'idée là, c'est de saisir justement l'occasion d'une question pour répondre. Autrement dit, ce n'est pas forcément nous qui sommes à l'initiative, mais il y aura une occasion à saisir. Vivre le témoignage dans cette perspective-là, il faut reconnaître que ça donne à l'autre le choix du lieu, du moment, mais aussi du sujet. Ça a l'avantage de donner à l'autre le choix de cela pour entrer dans une conversation sur la foi. Ça nous permet à nous aussi d'être dépendants de Dieu, d'aspirer à ce que Dieu nous donne, de répondre comme il faut à ces questions et de savoir comment parler du sujet en question. Dans notre esprit, c'est vrai qu'il devrait y avoir un désir, une intention de témoignage et lorsque l'occasion se présente, une réponse donnée, une réponse claire. Maintenant, tout en disant cela, il faut reconnaître aussi qu'il est légitime parfois de provoquer une discussion, de susciter des occasions. Je pense particulièrement à la sortie du mardi soir, à semer. Ça, c'est des occasions où on se donne d'initier une conversation. Et c'est tout à fait légitime, c'est une bonne chose. Il faut reconnaître aussi qu'il y a différents tempéraments. Écoutez la citation de Thierry Bizot, un producteur télé qui est devenu croyant il y a quelques années. Et dans un billet où il parle justement de la difficulté que beaucoup ont à parler de leur foi, voici ce qu'il dit. « Pour ma part, Jésus est entré dans ma vie et je n'en reviens toujours pas. J'étouffe de gratitude et j'ai envie de le présenter à tous ceux qui cherchent. Ça ne me demande aucun courage, aucune abnégation, aucune qualité particulière. J'en ai envie, ça me fait plaisir. » J'espère que ça nous inspire tous à avoir ce même plaisir à partager. Mais dans ce billet, justement, il reconnaît que pour lui, c'est quelque chose qui vient naturellement, alors que pour d'autres, c'est peut-être pas aussi facile. Pour d'autres, il s'agira justement de saisir les occasions, les questions qui nous sont posées. Mais que dire du contenu? Et on va terminer avec cela. Que dire du contenu? Verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Une parole accompagnée de grâce. Quand je repense à mes premières conversations, quand j'étais jeune chrétien, je réalise que souvent il y avait ce côté un peu mode d'argument conflictuel. Je vais te montrer que tu as tort et que moi j'ai raison et tu vas m'écouter jusqu'au bout. On peut facilement, en tant que jeune chrétien, être tellement désireux de parler de notre foi qu'on devient imposant, lourd. Cette grâce, dans la manière de parler de sa foi, c'est le reflet de la grâce qui est au cœur du message de l'Évangile. Si on croit qu'on a été sauvé, non pas parce qu'on le méritait, qu'on était meilleur, eh bien, on devrait justement le refléter dans la manière d'en parler. La supériorité, le sarcasme, la condescendance, l'arrogance n'ont pas leur place quand on parle de l'Évangile. Maintenant, à l'inverse, avec des années d'expérience de la foi, ce serait facile de parler de notre foi de manière fade, détachée, comme si l'Évangile n'avait plus grande valeur. Et l'apôtre Paul affirme qu'il faut une réponse assaisonnée de sel. Le sel, c'est ce qui donne du goût, c'est ce qui donne envie, ça doit donner un intérêt, susciter l'intérêt. Le sel, comme dit Jésus dans le sermon sur la montagne, c'est ce qui distingue les chrétiens. Il faut que ça attire. Il faut que ce, au contraire d'être quelque chose de fade, un élément distinctif des chrétiens. Il y a donc à cette question, comment rendre témoignage de notre foi? Comment faire connaître le mystère du Christ qui satisfait pleinement? Tout commence avec la prière, pour qu'une porte s'ouvre, que le mystère du Christ soit dit. Et dans une cohérence avec le message, qu'il y ait un comportement qui dise le contenu du message. Et les croyants, chacun d'entre nous, nous devrions être prêts à saisir les occasions qui vont se présenter pour répondre de notre foi. Une réponse mêlée de grâce et assaisonnée de sel. Je vous invite à prier. Père, tu connais notre scepticisme lorsque nous venons à toi dans la prière. Tu l'aurais fait sans qu'on prie. Ou alors, est-ce que tu veux vraiment exaucer nos prières? Accorde-nous, Seigneur, d'être alimentés par la reconnaissance pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, tout ce que tu nous accordes jour après jour. Accorde-nous, Seigneur, de vivre cette vie de prière éveillée et de prier en effet qu'une porte s'ouvre pour la parole et que se dise ce mystère du Christ. Te prions aussi que tu nous accordes une cohérence dans notre comportement. Si nous sommes croyants ce soir, accorde-nous d'être cohérents et que nous puissions saisir les occasions qui se présentent, répondre avec une parole qui témoigne de la grâce et qui a du goût, du sel. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.